Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Et sans plus tarder, on va inviter notre prédicatrice d'Orléans.
Avec toute la joie qu'on a eue de chanter ce matin, je pense qu'une bouteille d'eau, c'est pas une mauvaise idée, hein? Amen. Alors aujourd'hui, on est dans la série Aucune condamnation. Alors j'ai choisi de partager avec vous un sujet que j'avais à cœur. Et ceux qui ont été avec nous le premier mercredi de ce mois, vous avez su qu'on avait parlé un peu du côté de la liberté. Et j'avais vraiment à cœur de poursuivre ce sujet de Christ m'a libéré. Et puis aujourd'hui, on va vraiment entrer dans le sujet de la liberté en Christ. Ce que c'est de vivre sans condamnation. Quand tu vis dans la condamnation, tu ne te sens pas très libre. Alors, quand tu n'as aucune condamnation, libéré, Christ m'a libéré. Mais, vous savez, depuis qu'on a commencé l'Église, ça fait peut-être deux ans, il y a une femme ici à notre église qui m'a plus ou moins, on dit en anglais, taillé ou qui a plus ou moins donné la réputation que lorsque je prêche, je brasse les gens. Alors, ce matin, si vous sentez comme le prochain diapo, s'il vous plaît, à l'arrière, si vous sentez comme un de ces animaux, de ces animaux pendant la prédication, c'est juste un avertissement. Des fois, la parole de Dieu, ça nous brasse. C'est comme une épée à double tranchant. Vous pouvez être comme le singe, puis oh! Ou bien vous pouvez être très heureux de ce que vous entendez, comme le beau pug, ou bien comme le chien là qui court, ou vous pouvez vous sentir projeté comme ce chat qui est lancé au bout des bras du monsieur. Et ça, c'est pas toujours évident. Ou vous pouvez vraiment vous sentir très brassé comme ce pauvre minou qui a toute une coiffure. Alors, dites à votre prochain, on va se faire brasser ce matin. Vous avez peut-être entendu parler d'une femme qui est très connue dans l'histoire aux États-Unis, dans l'histoire de la libération des esclaves, qui est Harriet Tubman. C'est une femme qui était esclave elle-même et son histoire est très passionnante. Elle était une esclave en fuite, elle s'est enfuie. Et elle a tenu sa liberté en allant vers le nord. Mais une fois libre, c'était pas assez pour elle. Elle a voulu participer à libérer d'autres. Elle a pris des grands risques parce qu'elle était, étant de peau noire, elle pouvait juste être recapturée et ramenée en esclavage. Cependant, sa liberté n'était pas vraiment autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle avait vraiment su qu'elle ne méritait pas d'être esclave et elle a su qu'elle pouvait aller chercher d'autres. Et elle l'a fait. Elle a fait partie du. Elle est devenue. Elle a risqué sa vie pour devenir un conducteur sur le célèbre chemin de fer clandestin qu'on appelle Underground Railroad, où est-ce qu'on amenait des esclaves du sud vers le nord, vers la liberté. Et elle a dit elle-même qu'elle en aurait sauvé plus, selon elle, si seulement ils savaient qu'ils étaient esclaves. Elle aurait pu sauver plus de gens, elle a sauvé plus de 300 personnes, mais elle aurait pu en sauver plus si seulement ils savaient la différence entre l'esclavage et la liberté. Si seulement ils avaient envie d'être libre, au lieu de rester pris dans l'esclavage. Et en tant que chrétiens, nous sommes dans une situation similaire à celle de Harriet Tubman. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous avez été libérés par Christ, si on est vraiment nous qui avons mis notre foi en lui, pour notre salut, en Christ. Nous avons échappé à un esclavage de toutes sortes. Nous avons échappé à l'esclavage du péché, car Christ nous a montré la voie et nous a rachetés à un grand prix. Mais la liberté, c'est aussi libérer les autres. Parce que ce n'est pas égoïste. La liberté, quand tu es libre, tu n'es pas égoïste. Et cette femme, pour moi, est un exemple incroyable de ce que c'est l'appel du croyant. Et nous savons qu'elle aurait pu se cacher. Nous savons qu'en tant que personne libre, elle est arrivée au nord, elle aurait pu dire, écoute, moi, là, fouche, je me suis fait fouetter, je me suis fait abuser. Là, enfin, on ne fait plus rien. Il n'y a pas question que je retourne. Mais c'est une femme de passion. On dit même qu'elle n'était pas très grande, pas très forte physiquement, mais sa force était à l'intérieur. Sa force était à l'intérieur. Et Dieu nous dit d'être comme elle. Dieu nous appelle à être comme elle. Elle n'a pas choisi la petite vie calme, confortable, sans controverse, sans danger. Elle a choisi de partager sa liberté, ce qui prouve pour nous qu'elle était réellement libre. Elle était réellement libre. Libre de toutes les choses que ça aurait pu faire à elle, à son esprit dans le passé. Christ m'a libérée afin que je ne marche plus sous le joug de la condamnation, ni le péché, mais dans la liberté et dans l'amour de Christ qui bannit toute crainte et qui permet de libérer d'autres captifs. Par mon témoignage, un peu comme Harriet Tubman, par votre témoignage, Christ vous a libéré afin que par votre témoignage, vous libérez d'autres. Et Dieu ne nous appelle pas à une simple sécurité ou des belles apparences religieuses, comme les pharisiens, qui étaient préoccupés par l'apparence extérieure, par si on faisait tel rite, tel rituel, de telle façon. Ça, c'était leur préoccupation. Ce n'était pas la préoccupation de Jésus. Jésus était préoccupé par les gens qui étaient captifs. Il dit, l'Éternel oint afin de libérer les captifs. C'était pas pour « Ah, on va faire des petits rites, on va paraître bien dans nos beaux habits, puis on va regarder les autres, oh, sont-tu mauvais un peu? » C'était pas ça, son appel. Et c'est pas ça, notre appel en tant qu'Église. On n'est pas appelé à s'enfermer dans nos quatre murs et de s'enfermer dans notre liberté. Il faut aller libérer aussi. Amen? Et Dieu nous appelle à ça, d'être dangereux ou dangereuse pour le royaume des ténèbres. Cependant, comme le dit Christine Kane, une auteure prédicatrice qui a fondé un mouvement qui libère des jeunes filles prises en esclavage dans le human trafficking ou le trafic humain en tant qu'esclaves sexuelles. Elle libère ça, elle a un organisme qui libère des jeunes filles. Elle dit, « La plupart d'entre nous, les chrétiens, préférons le confort d'être victimes plutôt que la responsabilité de vivre dans la liberté de Christ. C'est plus facile d'être victime. » C'est plus facile de rester, « Ah, oh, mais là, moi, je peux rien faire, le monde est-tu mauvais, hein, qu'un peu? » C'est plus facile que de vraiment marcher dans la liberté que Dieu nous donne. Et peu sont ceux qui sont prêts à vivre pleinement leur liberté, comme cette femme Harriet Tubman. Parce que pour le faire, et ici, c'est très clé, pour le faire, tu ne peux pas être égoïste. C'est très égoïste de penser à mon confort et ma sécurité. Pour le faire, il faut que je sois prête à penser à l'autre, aux intérêts. Dedans, Philippiens, ça dit, penser aux intérêts des autres avant les tiens. Penser au fait, comment j'étais moi quand j'étais captif. Ici, personne ne m'avait parlé de Jésus. Ici, personne ne m'avait parlé de Dieu. Où est-ce que je serais aujourd'hui? Où est-ce que je serais? Alors, Dieu nous appelle à être ses lumières, à briller. Mais des fois, en tant que chrétien, on est plus préoccupé par suivre les règles. Ou nous avons totalement oublié la puissance de la grâce de Dieu pour nous et pour les autres. On est plus, OK, bien, c'est mon devoir d'aller à l'église, je vais chanter quelques chants, entendre une prédication, et j'ai fait mon devoir. Mais Dieu veut que tu vis ta liberté tous les jours. Dieu veut que tu aies cette relation intime avec lui tous les jours afin que tu puisses toucher les cœurs des autres. Parce que sinon, tu vas avoir une foi superficielle. Tu te préoccupes plus de l'apparence extérieure de ce qui est à l'intérieur de toi, comme le faisaient les pharisiens. À l'extérieur, ils paraissaient bien, il y avait une grande influence. C'était un groupe de 6000 à peu près personnes qui influençaient toute une nation. Mais à l'intérieur, Jésus voyait l'hypocrisie, voyait ce qui était vraiment dans leur cœur. Alors, on a ce choix. On doit se rendre compte de notre condition intérieure, de nos pensées. Est-ce que je suis esclave? Et la première chose qu'il faut faire pour être libre, c'est reconnaître là où tu n'es pas libre. Reconnaître ce qui te lie. On dit dans les, où est-ce qu'on aide les alcooliques ou les dépendants, que la première étape, les 12 étapes, c'est reconnaître. Reconnaître mon problème. Ensuite, c'est de reconnaître que je ne peux pas m'en sortir tout seul, que Dieu peut me sortir. Mais c'est la même chose pour nous, dans toutes choses. Parce que des fois, on peut être libre dans une partie de notre vie, mais dans d'autres, on est encore lié. Et Seigneur, ce matin, a mis sur mon cœur qu'il veut vous libérer. Qui veut montrer des coins dans vos vies que vous êtes encore captifs, que vous êtes encore liés. Puis pour libérer, il faut être libre. Harriet Tubman n'aurait pas pu aider personne s'il était encore esclave. N'est-ce pas? C'est la réalité. Il fallait qu'elle soit libre. Alors, comme on est dans cette série, ce matin, ce que je veux faire, c'est prendre le texte de Romains 8, qui est notre sujet, mais le mettre à la lumière d'un autre texte qui est juste avant Pâques, et c'est le texte dans Jean 12, et c'est le texte de Marie qui verse le parfum sur les pieds de Jésus. Et on va voir ici beaucoup, en comparaison, l'état de Judas et l'état de Marie. Et c'est un peu l'illustration que j'utilise pour démontrer le texte de Romains 8. Alors, on va avoir beaucoup de paroles de Dieu, ce qui est bien, n'est-ce pas? Et on va rentrer dans l'histoire. Et dans l'histoire, on va voir que 6 jours avant la Pâque, Christ nous il va montrer comment il nous a affranchis afin qu'on puisse vraiment être libre, libre d'exprimer notre amour comme Marie et Marthe, tandis que Judas était pris, était esclave de son hypocrisie et de son amour du gain. Parce que des fois, on pense liberté, on pense des affaires extravagantes comme être un addicté d'alcool, de héroïne, mais des fois, on est esclave des péchés très cachés. La jalousie, la critique, l'amertume. Des choses qui ne se voient pas à l'œil, mais que Dieu voit et qui affectent tes attitudes et ton comportement. Alors, comme j'ai dit, nous sommes 6 jours avant la Pâque. Après la résurrection de Lazare, le texte Jean 11, c'est la résurrection de Lazare à Béthanie. Et là, on se retrouve dans la maison de Simon le lépreux, selon le texte de Matthieu 26, 6 et Marc 14, 3. Et un repas est préparé pour Jésus afin de l'honorer. Car qui est présent? On dit que Lazare est présent puisqu'il est assis à la table. Et ses sœurs Marie et Marthe, puisque Marthe sert. Et on dit que Simon le lépreux, mais on sait très bien que Simon n'est pas lépreux dans cette scène. Que les théologiens croient que c'est un homme que Dieu aurait guéri, que Jésus aurait guéri, mais qu'on a gardé son titre lépreux parce qu'il a été lépreux. Mais tu ne peux pas être propriétaire de maison et accueillir des gens chez toi si tu es lépreux. C'était pas, selon la loi, c'était pas possible. Alors, on sait que Simon, le lépreux, que Judas, Iscariote, et les autres disciples, incluant Jean, notre témoin oculaire, et selon Matthieu et Marc, Marie aurait versé le parfum sur la tête de Jésus et Jean exprime qu'elle l'a versé sur les pieds. Et on va voir un peu comment les textes se marient là-dedans. Et il y a aussi diverses opinions sur est-ce que c'est la même scène que dans Luc 7, 36, 39 avec la femme pécheresse qui vient mettre de l'huile. Et là-dessus, il y a un débat, puisque selon les dires de certains théologiens, ça, c'est une différente situation si c'était en Galilée au lieu d'Abéthanie. Et il y a quand même, puis au début du ministère, au lieu de juste avant Pâques, alors il y a quand même juste pour vous mettre dans le contexte, là, il y a quand même une différence. Alors, 6 jours avant la Pâque, c'est dans le texte de Jean 12, 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. J'aimerais juste souligner que plusieurs mois avant, Marthe et Marie avaient reçu Jésus. Et il y avait eu une petite scène chez la famille de Marthe, Marie et Lazare, où est-ce que Marthe servait, et là, était frustrée que Marie était au pied de Jésus à écouter Jésus parler. Et elle a dit, « Mais pourquoi tu ne dis pas à ma sœur qu'elle doit m'aider à servir? » Et Jésus a un peu réprimandé Marthe, disant, « Écoute, elle a choisi la meilleure part. » Mais ici, on voit que Marthe sert encore. Et c'est correct. Marthe, c'est comme ça qu'elle exprime son amour envers Christ, c'est sa façon d'exprimer sa gratitude. Il a sauvé son frère Lazare. Elle s'y donne, elle sert, elle aime servir dans la cuisine. Elle aime ça. Et regardez bien, elle n'épouse rien sur Marie cette fois-ci. Donc vraiment, elle le fait avec une bonne attitude. C'est à remarquer. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard sur le grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Et j'aimerais juste un peu mettre en contexte avec les autres textes qui dit que dans Marc 14, ça dit, « Quand elle est venue, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. » Alors ici, on montre les pieds, mais aussi, c'était sur la tête de Jésus. C'était à Béthanie encore qu'on dit dans le texte. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est qu'elle a, brisé ce vase, versé sur la tête, et ça c'est soit qu'elle l'a fait un peu là, et vers les pieds, ou que ça a juste coulé. Quand tu parles de 350 millilitres, ça mouille. Vous êtes d'accord? OK. Ça mouille. Vous comprenez. Alors, c'est ça, ça l'a déversé. Et c'était un parfum très cher. Alors, Jésus, dans le texte ici de Matthieu 26, dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Donc, c'est un peu ce que ça veut dire par « laisse-la ». Pourquoi vous faites de la peine? Et ce qu'on voit là-dedans, c'est beaucoup l'attitude de Marie versus l'attitude de Judas. Puis Judas, à ce moment, ça dit dans le texte, dans Matthieu 26, suite après le verset 13, quand Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Ça dit, « Alors, l'un des 12 appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « « Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. C'était comme un peu la cerise sur le gâteau pour Judas dans cette scène. Là, il est frustré. Puis, il s'en va voir les sacrificateurs après ce souper. Alors, dans ce passage, nous voyons qu'il y a plusieurs aspects qui nuisent à notre liberté. Judas, vous le savez, a passé 3 ans avec Jésus. Il a chassé des démons. Il a guéri des malades. Il était dans le ministère, là, à temps plein, avec Jésus. Il était vraiment engagé. Mais, tout de même, ce n'est pas un homme libre. On va voir pourquoi il n'est pas libre. On va voir qu'il y a quelque chose dans Judas qui n'est pas bien. Et il est encore dominé par les convoitises de sa chair. On va répondre à 2 questions. Pourquoi Christ m'a-t-il libéré et comment être réellement libre? Christ m'a libéré afin que je ne marche plus sous la condamnation, ni sous le joug de la loi, du péché, de la mort, ni dans la chair, mais par l'Esprit. La différence entre Judas et Marie se retrouve là. Judas est encore dans la chair. Ce que j'aime dans le passage, vraiment, pour moi, c'est la liberté de Marie. L'amour qu'elle porte en elle pour Christ. La pousse à l'action. Elle est totalement libre de la peur, de ce que les autres vont penser. Parce que si elle y pensait vraiment à ce que les autres vont penser, elle n'aurait pas fait l'action qu'elle a faite. Il faut s'en rendre compte. Elle n'a pas pensé à l'apparence d'être inappropriée ou extravagante, de devoir rechercher l'affirmation des autres, de l'amour, de l'argent et même de l'égocentrisme. Ce n'était pas ça son focus. Sa passion est de simplement et humblement servir Jésus, de l'honorer. Rien ne peut l'arrêter. Elle est remplie d'amour et de reconnaissance envers Jésus. Elle veut montrer son amour en déversant sur lui un parfum. d'environ, comme j'ai dit, 350 millilitres, c'est selon le système métrique d'aujourd'hui. Le nard était une huile odorante extraite des racines d'une plante originaire des montagnes du nord de l'Inde. OK, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'avion. Quand ça venait de loin de même, c'était cher. De l'Inde jusqu'en Israël, c'était pas à côté. C'était quelque chose de très cher. C'était d'un grand prix considérant la distance de l'importer. Sa valeur était plus que 300 deniers, ce que Judas semblait aussi évaluer en tant que valeur à une valeur d'une année de salaire. Okay? Ce parfum représentait probablement une grande partie de la valeur nette de Marie. Si on pense aujourd'hui, la majorité des gens font entre 30 000 à 50 000 l'année, ici au Canada, tu te dis, c'était un parfum cher. Si on le met à notre jour aujourd'hui, c'est comme lui donner le taux de l'année. C'est à peu près la valeur. Mais quelque chose qui ne peut pas être utilisé comme une voiture. Une fois que c'est versé, c'est fini. N'est-ce pas? C'est pas la même chose dans ce sens-là. Mais elle refuse d'offrir au Seigneur quelque chose qui ne lui coûte rien. Elle laisse libre cours à son expression d'amour. Ensuite, dans un geste qui choque plus les témoins que n'importe quoi, elle essuie les pieds avec ses cheveux. OK. Les Juifs, premièrement, voyageaient de longues distances à pied dans des sandales. Si on met le prochain diapo, on voit que leurs sandales, c'était pas vraiment quelque chose qui protégeait tes pieds de la boue. Comme le disait Pasteur Emmanuel deux semaines passées, les chemins, il y avait des ânes, il y avait des chameaux, il y avait des chevaux et il y avait les excréments au sol aussi, OK? Mélangés à la terre, à la boue, c'était pas propre. Et ce qui fait que les pieds étaient sales, très sales. Vous voyez, la fille en sandales, c'est souvent comme ça. Et on réservait le lavage des pieds aux esclaves ou aux gens vraiment que tu employais pour ça parce que c'était très dégueulasse et on prenait pas les cheveux pour le faire, évidemment. Est-ce qu'il va falloir d'aller prendre une bonne douche après? Hein? Et elle fait ça avec ses cheveux. Elle essuie des pieds sales avec les cheveux. Et on peut supposer qu'ils étaient sales, parce que dans ce temps-là, c'était très commun. Mais en plus, en détachant ses cheveux, j'en ai pas beaucoup moi, là, mais elle avait certainement plus long, parce qu'avec ma longueur de cheveux, j'aurais du mal. En détachant ses cheveux, c'était quelque chose de considéré à l'époque comme indécent, même immoral pour une femme de faire ça en public. C'était quelque chose réservé plus pour ton époux. Donc vraiment, en détachant ton cheveu, tu t'exposais comme femme à être critiquée. Mais elle ne se soucie pas de la honte qu'elle risque de s'attirer de la part des religieux. Son seul souci est de déverser son amour à Christ et de l'honorer sans même penser que son geste pourrait être perçu comme un sujet de honte ou de provocation. Marie ne se soucie pas des choses de la chair. Elle ne se justifie pas par la loi. Le prix de son vase et de son parfum, l'apparence de nettoyer les pieds, de détacher ses cheveux, tout ça, ce n'est pas son souci. Elle est éblouie et émerveillée par la grâce et la puissance de Jésus. Il a ressuscité son frère. Pourquoi est-ce qu'on va la critiquer? Pensez-y, son frère était mort, ça faisait 4 jours. Là, ils font un festin pour honorer Jésus, puis la résurrection de Lazare. Puis on la critique de vouloir déverser son amour envers Jésus. On la critique ouvertement, puisqu'il dit « faites-lui pas de la peine ». On la critique dans sa face, littéralement. Comme si elle n'était pas assez intelligente pour savoir qu'on parlait d'elle. Puis en plus, Jean est très explicite. Il dit « toute la maison fut remplie de l'odeur ». Déverser 350 millilitres de parfum sur la tête de quelqu'un et essayer de voir si ça sent pas fort dans la maison. Ça va sentir. Il y en a qui étaient peut-être offensés par ça aussi. Mais elle a fait une expression de son amour. Jésus comprend. Elle ne se préoccupe même pas du prix à payer. Dans sa perspective, il n'y en a pas de trop grand prix à payer. Jésus a fait plus pour elle et pour sa famille. Et ça me rappelle le texte dans ce que Paul dit dans Romains, qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Et Paul utilise deux mots intéressants, qui est la chair, qui est sarx, et l'esprit, qui est pneuma. Et dans le mot que Paul utilise, quand il parle de chair, il y a d'habitude dans la traduction deux mots, ça vient de deux mots. C'est sarx, ou l'autre mot, c'est katasarka. Katasarka, c'est une autre chair qu'on voit des fois dans les écrits de Paul, qui est quelque chose plus de la perspective humaine. Ou qui est humain, comme Christ est né de la chair d'Abraham, genre, ben dans sa chair, c'est pas dans le côté charnel, péché, mais vraiment dans le côté perspective humaine et tout ça. Donc, il utilise plus qu'un mot chair, mais dans ce texte que je viens de vous lire, il utilise sarx. Et sarx veut dire qu'il marche selon la nature humaine dans toute sa faiblesse et sa vulnérabilité au péché. Tout ce qui attache le cœur de l'homme au monde, au lieu d'être attaché à Dieu. Tout ce qui nous attache au monde. Dans ce texte, il emploie le mot sarx dans sa comparaison avec l'esprit. Donc, marcher selon la chair, c'est vivre une vie dominée par les désirs et les demandes de ta nature pécheresse et humaine, au lieu d'être dirigé par les demandes et par l'amour de Dieu. Tu es dirigé par les choses de ce monde et non par l'amour. Si tu n'es pas dirigé par l'amour, mais tu n'es pas dirigé par l'esprit. Puis l'amour, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. Les désirs de la chair ne se limitent pas aux désirs sexuels. Tu sais, des fois, on parle de la chair, on parle de charnel, tout de suite, on pense à des affaires, des péchés sexuels. Ce n'est pas limité à ça. C'est beaucoup plus. Parce que Paul en parle dans Galates qui dit que les fruits de la chair ou les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ça, c'est synonyme à débauche, immodestie, indécence et même pornographie. J'ai fait de la recherche, c'est synonyme de l'impudicité, pornographie. Mais l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, donc les chicanes, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, est-ce que vous avez des problèmes des fois à trop manger, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais Christ nous a libérés de ça. On n'est plus obligé de vivre selon les œuvres de la chair, selon Paul. Christ nous a libérés de ça. Christ nous a libérés afin qu'on ne vit plus selon ces choses. Mais parfois, comme Judas, nous nous retrouvons encore liés par notre chair, notre ego. L'amour de l'argent s'installe, l'amour du gain, l'amour du contrôle, l'amour de certaines choses peut venir en vous et vous amener à être liés à la chair. Galates 5.1, ça dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Judas n'a pas resté ferme. « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Dieu, Christ ne vous servira de rien. » Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Mais vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par l'amour. Donc, la différence, si tu ne peux pas te justifier, par ce que tu fais ou fais pas à l'extérieur de toi. Tu peux avoir été à l'église 30 ans. Tu peux avoir donné tout ton argent aux pauvres. C'est des choses extérieures à toi. C'est bien, mais tu ne peux pas le justifier par ça. Tu ne peux pas penser que tu es meilleur que l'autre parce que lui n'a pas fait ça et toi, tu l'as fait. Tu ne peux pas. Ce n'est pas ça qui te justifie devant Dieu. Ce n'est pas ça qui te rend libre. Ça devrait être des preuves d'amour. Ça devrait être de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu donnes tes choses, mais tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. 1 Corinthiens 13. Quelle est la motivation pour laquelle tu fais les choses? Quelle est la motivation pour laquelle tu vas à l'église? Quelle est la motivation pour laquelle tu loues le Seigneur ou que tu joues la guitare ou que tu sers à l'arrière? Quelle est la motivation derrière ce que tu fais? C'est ça que Dieu regarde. C'est ce qui est à l'intérieur qui l'importe. Et on voit ici la grande différence entre Marie et Judas. À partir de ça, quand vous pensez à la motivation, Judas se préoccupait de se justifier dans la loi et aux yeux des autres. Sa rigidité d'esprit l'empêchait de ressentir ce que Marie éprouvait comme gratitude et amour pour Jésus. Qu'est-ce qu'elle pense qu'elle est, elle? Il prétendait même qu'il se préoccupait des pauvres. Ah! Oh, on aurait pu donner ça aux pauvres! Et gaspillage! Qu'est-ce qu'elle pense, elle? Mais elle n'a jamais pensé que pas faire de la peine à Marie en la critiquant ouvertement, ça serait plus sain. Comment tu vas penser aux pauvres si tu n'es pas capable d'aimer Marie qui est droite devant toi? Pense-y pas aux pauvres! Marie qui est juste à côté de toi, tu l'insultes! Elle vient de déverser je ne sais pas combien d'argent, de valeur sur Jésus. Mais tu l'insultes. Tu la méprises, tu la juges. Il n'y avait pas d'amour en lui. Il n'y avait pas de compassion, même pas du pauvre, parce que c'était faux. C'était de l'hypocrisie. C'était de l'hypocrisie. Il n'y avait pas d'amour pour Jésus. C'était un jeu. Il était déchu de la grâce de Dieu qui nous libère par son propre choix. C'est lui qui a décidé. Et qui nous donne la puissance de marcher dans cette liberté, dans la foi, l'amour et l'espérance. Il était déchu. Les Galates, dans le texte de Galates, on dit que les gens cherchaient à se justifier dans la circoncision, qui était un peu le même genre de chose que Judas. On cherche à se justifier dans des actions extérieures, la circoncision physique, quand ce que Dieu veut, c'est la circoncision du cœur. C'est ça qui importe à Dieu. C'est ça. C'est la circoncision du cœur. C'était juste une image pour nous montrer ce qu'il voulait faire. Pourquoi t'attacher à l'image? Attache-toi à ce qui est vrai. Dr. Phil Williams dit, « La loi est la lumière qui dévoile la saleté de la chambre. Elle n'est pas le balai qui la nettoie. » La loi est la lumière qui dévoile la saleté dans ta chambre, mais elle n'est pas le balai qui nettoie. La grâce, c'est le balai qui nettoie. Amen. Tu vois la saleté avec la loi, c'est bien, mais ça ne va pas te nettoyer. Tu ne peux pas te justifier. La différence, je dirais, est comparable à cet homme et à cette femme qui ne s'aimaient pas, mais qui se sont mariés. L'homme était très demandant. Il préparait une liste de règlements pour la femme à suivre. Voici la liste qu'il lui disait. Il insistait qu'elle obéisse à la lettre à la liste, qu'elle le lise chaque jour, cette liste. C'est vraiment un bon mari, hein? Et elle avait là-dedans l'heure qu'elle devait se lever, le moment qu'elle devait lui préparer le déjeuner, l'heure même où est-ce qu'il voulait avoir son déjeuner, comment nettoyer la maison, toutes les choses qui devaient être faites par jour, par semaine. Et après plusieurs années, le mari décède, il meurt. Quelques ans après, la femme rencontre un homme. Elle tombe amoureuse, elle se remarie. Et là, après quelques années, vraiment lui, il prend soin d'elle, lui donne l'affection. C'est pas du tout le même genre de relation, ils ont vraiment une intimité. Et un jour, elle fait le ménage et elle trouve en dessous de son lit la liste. La fameuse liste de son premier mari. Elle s'assoit, elle lit, à son grand étonnement, Elle réalise que sans même regarder la liste, elle faisait ça pour son deuxième mari. Automatiquement, mais pas par obligation, par amour et passion. Et c'est la différence. Dieu veut qu'on arrête de le servir comme si c'était le premier mari, mais comme si c'était le deuxième mari. Amen. La chair, c'est votre premier mari. Mais l'esprit, amen, le deuxième, il faut le mettre en pratique. Et souvent, ça, le problème, c'est qu'on perd notre premier amour. On perd notre premier amour, puis on laisse notre cœur s'endurcir par des déceptions de la vie, comme l'a fait Judas. Ma question est, comment est ta relation avec Jésus? Est-ce que tu marches sous la condamnation, l'obligation religieuse, la culpabilité, la peur, les désirs de la chair, ou est-ce que tu es motivé par l'amour pour lui, la reconnaissance? Lorsque je suis dirigé par l'amour de Dieu plutôt que par contrainte de la loi, je réalise que Christ m'a libéré afin que les choses de la chair cessent de m'attirer, mais que j'affectionne les choses de l'esprit. Les choses de la chair ont plus leur pouvoir sur moi. Mon focus devient Jésus. Judas, lui, était occupé par les désirs de la chair, mais Marie était préoccupée par les choses de l'esprit. Jésus était le centre, le focus des pensées de Marie, tandis que pour Judas, c'était sa propre réputation qui était son focus. Son « moi », « me, myself and I ». Hein? C'est le problème beaucoup dans notre société aujourd'hui. Le focus du « moi ». Judas a commencé à critiquer avec les autres le choix et les actions de Marie sans même réaliser que elle plaisait à Dieu. Ce qu'elle avait fait, c'était plaisait à Dieu. Tandis que elle, aujourd'hui, est encore acclamée pour son acte et lui est encore critiqué pour ce qu'il a fait. C'est drôle quand tu veux tellement sauver ta réputation, là, c'est là que tu la perds. C'est vraiment là que tu la perds. On le sait, pas longtemps après, il va se tuer. On arrive proche, là. Ça va être dans les proches, la semaine d'après qu'il va se pendre. Donc, il va vraiment perdre beaucoup par son attitude, son choix. Mais, vous comprenez, Judas, c'est pas le genre de gars qui va se remettre en question parce qu'il est orgueilleux. Il n'avait même pas l'humilité pour le faire car la chair le dominait. Il se croyait plus saint que Marie et plus smart que Jésus. C'est vrai! Pensez-y! S'il s'en va voir les sacrificateurs après, là, c'est parce qu'il pense qu'il est plus smart, lui. Là, il n'est pas content avec Jésus, mais on va vous dire quelque chose. Jésus ne fait plus son affaire. Il se croyait plus saint et plus smart. Il va voir les pharisiens, puis Judas, moi, je le caractérise d'un doux rebelle. Un doux rebelle. À l'extérieur, il paraît bien, mais il y a de la rébellion dans son cœur. Puis les autres apôtres sont un peu mélangés au départ. Ils se laissent un peu influencer par Judas, mais à la fin, ils vont réaliser qui il était vraiment. Et eux, ils n'ont pas une bonne opinion de lui après. Ils vont dire souvent, lui qui a livré Jésus, le voleur. Ils vont lui donner, même qu'ils vont le caractériser de démon dans leurs écrits. Il n'y avait pas une bonne perception de Judas parce qu'ils ont réalisé son hypocrisie. Mais en réalité, là, en tant que croyant, c'est plus facile d'être comme Judas. Il suffit de se prendre un petit peu trop au sérieux, de mal gérer des émotions comme la colère lorsque tu es contrarié, de refuser d'admettre avoir tort, et de trop te préoccuper de ta réputation, de tes apparences, de critiquer les autres pour paraître encore plus sain, plus smart. On lui ressemble plus qu'on imagine, n'est-ce pas? Souvent, si on est honnête, on le réalise. C'est un gars convaincant et influent qui s'affectionnait aux choses, malheureusement, de la chair. Et dans mon opinion, c'est plus difficile d'être comme Marie. C'est plus difficile d'être libre dans un monde où tout le monde aime se regarder, puis se critiquer, puis se préjuger. C'est plus difficile d'être libre c'est plus difficile d'être libre parce que t'es plus vulnérable. Elle était elle-même, elle était ce qu'elle est. Elle n'avait pas de masque, d'hypocrisie. C'est pas facile. Elle était vraiment quelqu'un que j'admire parce qu'elle pensait aux besoins de Jésus avant les siens. Elle cherchait à l'honorer, à lui démontrer son amour sans penser à un gain personnel et sans même le réaliser à quel impact qu'elle aurait sur les apôtres plus tard et sur l'Église et sur tout. On parle d'elle encore jusqu'à aujourd'hui en 2014. L'impact qu'elle a. Puis Judas, ben, on ne peut pas dire qu'il a ce même impact. Voici ce que Paul nous dit à ce sujet. Ceux, en effet, selon Romains 8, 5, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est ce qui est arrivé à Judas. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Quand j'étais au secondaire, j'avais un cours de sciences humaines. On avait une partie en 13e année, j'ai plus de 13e année maintenant, mais c'était philo, socio et psycho. Et notre prof nous avait appris en philo différents philosophes, dont Platon. Vous connaissez Platon, pour ceux qui sont un philosophe grec. Et elle nous avait expliqué l'allégorie de la caverne, Platon. Et moi, ça a vraiment eu un impact sur moi. Je l'ai vraiment vu d'une façon spirituelle, où est-ce qu'il expliquait qu'il y avait une caverne, où est-ce que tout était faux, où est-ce qu'il y avait des prisonniers attachés devant un mur, et derrière eux, il y avait un passage, un chemin, et derrière le chemin, il y avait un feu de camp. Et il y a des gens qui rentraient dans la caverne avec des objets, soit sur leur tête ou des objets, et ils passaient derrière eux, mais à cause de la lumière du feu, ça projetait des ombres sur le mur où est-ce qu'eux pouvaient voir, parce qu'il était attaché comme dans l'image, où est-ce qu'ils faisaient face vraiment à un mur et voyaient les images. Et eux disaient, « Ah, chaise, arbre! » Ils nommaient les objets qu'ils voyaient. Pour eux, ça, c'était des objets, c'était la vraie chose. Et un jour, on décide d'en libérer un, et de le sortir à l'extérieur. Et là, ils réalisent, ils voient les gens qui rentrent avec les vrais objets, ils voient le vrai soleil, parce que pour eux, la lumière, c'était le soleil, mais c'était le feu. Ils voient le vrai soleil, les vraies choses. Et là, ils sont comme, wow! Wow! Puis il est libre, puis il n'en revient pas, mais il est tellement content, il va aller dire aux autres. Fait qu'il court dans la caverne pour le dire aux autres, mais les autres sont pas prêts à l'entendre, puis il le tue. Ils sont fâchés de fait qu'ils disent que ça, c'est pas une chaise, puis ça, c'est pas un arbre. Ça, c'est... Et ça vient me chercher. Et des fois, c'est un peu comme ça qu'on peut voir. Parce que le royaume de Dieu, pour nous, on le voit pas toujours, mais c'est comme le vrai. C'est comme le soleil. C'est comme les vrais objets. Mais le royaume de la chair, c'est des choses d'ici, là. Vraiment, vous êtes juste dans une caverne. Mais si vous vous battez comme Judas, il est comme « Ah! Oh, le parfum! C'est trop cher! » Puis il pense qu'à l'ombre. Il n'est pas dans le vrai monde. Il est enchaîné. Mais Marie, elle voit le vrai monde, le royaume. Elle comprend les choses de l'esprit. Fait qu'il est dans une autre dimension. Mais lui, il veut l'étouffer à cause de ça. Mais Christ, quand il te libère pour vrai. Puis là, tes priorités changent. Amen. Tu réalises qu'est-ce qui est le vrai puis qu'est-ce qui est le faux. Qu'est-ce qui est le temporaire. Qu'est-ce qui est éternel. C'est beaucoup plus important. Et c'était beaucoup plus important à ses yeux ce qui était éternel. Et c'est ça la différence, que tu t'affectionnes aux choses de l'esprit. Que tu puisses voir, quand que tu penses à ça, pense à l'allégorie de la caverne pour avoir un peu une image dans la tête. C'est vraiment ça. Alors, Dieu nous appelle à être plus préoccupés par le royaume de Dieu, comme Marie, que par le luxe et les plaisirs du monde, comme Judas. Et par son humble sacrifice, elle a vraiment montré que un homme, c'est un homme, là, ça va passer. Mais lui, Judas, il se stresse. Il se stresse pour des hommes sans valeur aux yeux de Dieu. Et qui le garde captif. Alors, pourquoi suis-je libérée? Christ m'a libérée afin que je sois co-héritier avec lui jusqu'à partager ses souffrances présentes pour la gloire à venir. Marie comprenait déjà en pratique ce que Paul décrit dans Romains 8, 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour tous, pour nous. Alors, lui, il ne réalise pas qu'est-ce qu'il est en train de manquer. C'est vraiment dommage. Il ne réalise pas qu'il est co-héritier. Pourquoi il va se faire de ce parfum-là, vraiment? Pourquoi il s'en est fait? Il y a plus que ça en Christ. Pourquoi est-ce qu'il volait? Pourquoi? Il y a plus que ça en Christ. Il y a l'éternité de gloire. Les souffrances sont présentes, mais ne sont pas en Dieu, ne sont pas éternelles. On va avoir une gloire éternelle. Est-ce qu'il y en a qui sont contents de ça ce matin? Marie était consciente de la puissance de Jésus. Puis même si son parfum le valait une année de salaire, pour elle, ce n'était pas trop extravagant. Au contraire, elle était reconnaissante et prête à tout abandonner pour lui. Elle voyait l'éternité. Elle était co-héritière. Mais Judas, il était encore très lié. Je veux dire, quand tu es prêt à trahir ton maître pour 30 pièces d'argent, c'est pas fort. Puis Paul nous met beaucoup en garde de ça. Et, par exemple, Marie a été prête à partager sa souffrance et son humiliation, à venir en s'humiliant ainsi devant lui par ce qu'elle a fait. Judas, de son côté, garde son apparence pieuse, mais en réalité, derrière son masque religieux et pieux, il se retrouve un doux rebelle et un voleur. Et dans 2 Timothée 3:5, ça dit qu'il y a des gens dans la fin des temps qui auront une apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Et ils reniaient ce qui en faisait la force. Ils le reniaient parce qu'ils étaient plus préoccupés par l'image. Mais Christ m'a libéré afin que par son amour, je sois plus que vainqueur. Et vous voyez, les gens comme Judas, vous savez c'est quoi sont leurs problèmes? C'est quoi le problème quand nous sommes nous-mêmes comme Judas? C'est qu'on a peur, on a des craintes, on n'a pas l'amour. Parce que l'amour bannit la crainte, puis nous rend victorieux. Nous rend victorieux. Mais dans toute chose, selon Romains 8, 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur. La liberté de Marie et Marthe se caractérise par l'amour qu'elles ont pour leur Sauveur. Et ceci me rappelle un peu l'histoire pour les plus jeunes, mes enfants en tout cas, ils ont beaucoup aimé l'histoire, surtout ma fille, de Frozen, les deux sœurs princesses. Et Frozen, c'est un film de Disney qui est au cinéma et qui illustre vraiment la différence lorsque deux princesses ont une relation basée sur la peur, l'image et l'apparence, que lorsqu'ils vont finalement baser leur relation sur l'amour. Quand leur relation est dans la peur, quand ils ont les peurs qu'ils vivent, le royaume entier est en péril. Ils sont dans la glace, dans la neige, ça va mal. Mais quand la plus jeune sœur va faire un sacrifice d'amour pour sa sœur, prêt à sacrifier sa vie, tout va changer. Et là, l'amour va se révéler à eux. Et l'amour va changer le royaume et la condition. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Il veut que vous agissiez par amour. C'est l'amour qui bannit la crainte. Où est-ce qu'il y a de l'amour? Il n'y a pas de crainte. Tu peux même te rendre vulnérable. Tu peux être honnête. Tu n'as pas besoin d'être hypocrite parce qu'il y a de l'amour. Mais où est-ce qu'il n'y a pas d'amour? On doit mettre nos masques, on doit se protéger, on est méfiant, on a des insécurités. Or, qu'est-ce qu'elle veut vraiment de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut m'utiliser. Là, on vit là-dedans. Mais quand il y a l'amour, tu es libre. Tu es libéré. Tu es capable d'aller chercher d'autres qui sont captifs. Tu es capable de vraiment faire un impact. Pas une apparence d'impact, un vrai impact. Parce que tu es libre, tu as l'amour de Christ qui chasse, qui bannit toute peur. Dans 1 Jean 4, 18, ça dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Sans l'amour, tu n'es pas libre. C'est par grâce qu'est l'amour de Dieu que nous sommes sauvés et libérés. Alors pourquoi est-ce que ça serait différent pour nous envers les autres? Pourquoi? Pourquoi ce serait la condamnation, la culpabilité, la méfiance qu'on utiliserait envers les autres? Ça ne va pas le libérer. Tu vas le rendre encore plus captif si tu fais ça. Et te rendre captif. C'est l'amour qui te rendra victorieuse. Comme l'ont découvert la reine Elsa et la sœur Anna dans le film Frozen, Dieu veut que vous découvriez ça dans vos vies, dans vos familles. J'appellerai les musiciens à l'avant. Pour conclure, peut-être certains ce matin, au son de ma voix et aux paroles partagées, vous avez réalisé que vous ne marchez peut-être pas totalement dans la liberté de Christ. Que peut-être comme Judas, vous avez suivi le Seigneur depuis des années, mais que votre focus dans le quotidien de vos vies, ce n'est pas Jésus. Si vous êtes honnête avec vous, ce n'est pas toujours Jésus. Et peut-être vous avez eu pendant la prédication des inconforts dans l'âme, vous avez peut-être même vu des ressemblances avec Judas. Vous avez dit, des fois je pense comme ça, comme lui. Aucune condamnation. La repentance, c'est dire, Seigneur, me voici. Je te demande pardon. C'est vrai que des fois j'ai fait comme Judas. C'est vrai que des fois je suis liée par ce que les autres pensent. Je suis liée par la peur, par la crainte. Mais Dieu veut vous appeler à la liberté. Puis des fois, c'est des choses très simples, comme les colères réprimées, la jalousie, les préjugés, la comparaison, toujours tu te compares ta vie à la celle des autres. Tu as peur de l'échec, peur d'être blessé, besoin de contrôler les autres parce que sinon tu es insécure. La méfiance, la moquerie, le cynisme, le manque d'amour envers les autres, le manque de compassion, le manque de l'amour de l'argent ou le luxe, du luxe comme Judas, ces choses-là peuvent lier ton cœur et t'empêcher de marcher pleinement dans la liberté de Christ. C'est des choses qui peuvent te lier. Et mon appel ce matin est simple. Si vous désirez être libéré de tout joug que l'ennemi veut vous lier avec, les blessures du passé, non pardonnées peut-être, qui vous rend esclave, l'amertume, les déceptions. Judas avait été déçu plusieurs fois. Il pensait que peut-être que Christ allait prendre le pouvoir, le royaume, le gouvernement. Puis il a vu Christ fuir ses opportunités. Il a vu Christ repousser des gens avec des paroles dures comme « manger mon corps et buvez mon sang ». Puis il était comme « mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Moi, si j'avais sa force et sa puissance, voici ce que je ferais. » Et des fois, c'est des déceptions comme ça. Des critiques qui rentrent, de la moquerie, « Ah, lui, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. » Des choses comme ça qui viennent dans ton cœur et qui te lient maintenant par ta parole, par ton attitude. Mais ce matin, Dieu veut briser ça au nom de Jésus. Il veut briser des liens dans vos vies. Il veut briser les choses qui vous lient, qui vous empêchent de marcher par l'esprit, qui vous poussent à marcher dans la chair. ce matin, j'aimerais qu'on loue avec l'équipe, qu'on se lève. Et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de confesser à Dieu. Seigneur, écoute, des fois, là, j'ai pas d'amour et de compassion dans mon cœur envers des personnes. Parfois, Seigneur, je fais des choses par égoïsme. Parfois, Seigneur, je suis concentrée sur mon gain personnel. Je suis pas vraiment concentrée sur toi. Puis ma motivation, des fois, Seigneur, est pas exacte, est pas alignée. Puis, Seigneur, je te demande pardon ce matin. Seigneur, on te demande pardon ce matin. On veut que tu transformes nos vies, Seigneur. On veut que tu transformes nos cœurs, Seigneur. On veut vivre dans cette liberté, Seigneur, que tu nous donnes. Tu nous as franchis à un grand prix, Seigneur, et on veut vivre libre, libre des choses de la chair et s'affectionner aux choses de l'esprit. Oh, ce matin, on veut renouveler des vœux, Seigneur. Ceux qui ont refroidi, Seigneur, viens les toucher, Seigneur, afin que leur cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Vous savez, chaque fois que vous entendez la parole et que vous refusez d'y répondre, vous endurcissez votre cœur. Mais chaque fois que vous entendez la parole et que vous recevez, Dieu change votre cœur et le rend plus doux, plus comme le sien. Et chaque fois, sa parole ne va pas tomber vide. Alors, répondez correctement ce matin à la parole de Dieu. Et dites, oui, Seigneur, j'accepte. Je veux être libre. Je veux vivre libre, Seigneur. Je veux vivre comme Harriet Tubman, qui est capable de non seulement vivre dans cette liberté, mais de libérer aussi d'autres, Seigneur. On vit dans un monde, Seigneur, malade. Chacun pense pour soi. Et le monde nous a appris que la liberté, c'est d'être égoïste. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oh Seigneur, que ces gens puissent être libérés totalement ce matin, Seigneur.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Innis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.